D'abord, vous vous cassez la jambe. Alors, vous regardez par la fenêtre. Vos yeux sont tout injectés. Vous avez dû regarder par la fenêtre pendant des heures.
Vous ne croyez pas que l'un de nous pourrait changer?
D'un seul coup, ça me semble impossible.
Bonjour, bienvenue sur l'émission Fenêtre sur cour, notre deuxième émission enregistrée avec Couleur FM dans le cadre d'un projet de Fondation de France. Donc nous sommes encore là aujourd'hui avec plaisir, avec Guylaine.
Bonjour.
Avec Anne-Marie.
Bonjour.
Et avec André.
Bonjour.
Et avec Corinne.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons nos trois rubriques. Donc une première rubrique, Parole aux anciens. Avec Jacqueline qui va nous parler des tissus anciens et des trousseaux surtout. Nous avons aussi une rubrique avec nos initiatives locales. Donc aujourd'hui l'initiative c'est un atelier conte qui s'est mis en place au centre social, à la cité de la CAF. Donc aujourd'hui nous aurons aussi une intervenante avec Micheline Duplan. Et la troisième rubrique ce sont les entreprises innovante. Nous sommes allés faire un petit tour à Montferrat, découvrir une entreprise qui fabrique des sièges d'orthodontie et nous avons une interview avec Monsieur Simon Christophe et puis ses collègues.
Alors, on va déjà démarrer avec le trousseau. Jacqueline va nous parler du trousseau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Parce que c'est quelque chose qui n'évoque rien pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Jacqueline. Qu'est-ce que c'est que le trousseau? D'où ça vient?
Ben, ça vient un petit peu de famille, hein, parce que ma mère cousait très bien. J'ai une tante qui brodait très bien. Et dans leur enfance, dans leur jeunesse, elles avaient brodé et cousu beaucoup. Donc, c'est un peu héréditaire, disons.
Et est-ce que toi-même, tu as brodé ton trousseau?
J'ai brodé des draps, oui. J'avais appris à broder chez Mademoiselle Beck, qui avait un magasin rue Robert Belmont, là, après la rue Robert Belmont, à Bourgoin. Et j'avais appris un peu à broder avec elle. Mais je brodais des draps de dessous. Moi, je faisais pas les jolies broderies pour les draps à rabattre, quoi. Un trousseau, toutes les jeunes filles qui se mariaient devaient avoir un trousseau. Dans le trousseau, il y avait les draps, alors les draps en fil généralement, qui étaient brodés et avec des jours échelles, des jours Venise, agrémentés de pois aussi, bon, avec des festons aussi. Il y avait non seulement la partie droite du drap, mais il y avait aussi le retour de drap qu'il fallait broder et il fallait faire les jours. Les jours étaient quelquefois des grecs. C'était pas des lignes droites, il fallait bien tirer les fils, bien compter. Et les jours Venise simples, les jours Venise brodés, il fallait bien savoir compter les fils. Moi, j'ai toujours été beaucoup gênée par ma vue, parce que je ne voyais pas très bien, mais je voyais gênée par ma vue pour faire les jours, pour compter les fils. Alors, dans le trousseau, il y avait donc les draps, il y avait les nappes et les serviettes, il y avait les torchons éponges, il y avait les torchons de cuisine, et tous ces torchons étaient marqués au point de croix, avec les initiales, le nom et prénom de chacune.
Oui, j'ai connu ça. Mais moi, je n'ai pas eu de trousseau parce que dans les années 40, ça ne se faisait plus. Puis c'était la guerre, alors on n'a pas connu ça.
À tous les Noëls, moi, j'avais droit à un drap. C'était un cadeau de Noël. Et ce trousseau, il était marqué dans le contrat de mariage. Dans mon contrat de mariage, mes parents avaient exigé que je marque mon trousseau, que j'indique combien j'avais de draps. J'avais 18 draps en fil brodé, j'avais des nappes et des serviettes, j'avais tout ça. C'était tout marqué dans mon contrat de mariage. À partir de l'âge de 12 ans, les enfants, quand ils allaient dans les champs, d'ailleurs, elles brodaient au point de croix. Alors, elles brodaient au point de croix les torchons. Et le soir, à la veillée, alors, elles faisaient les broderies pour les draps. Elles n'emmenaient pas leurs draps à broder dans les champs, en campagne. Mais les torchons simples, torchons éponges, torchons de cuisine, les points de croix se faisaient en gardant les vaches dans les champs.
C'était obligatoire.
Obligatoire, oui, c'était obligatoire que chaque fille d'une fille se marie ait un trousseau. Du moins dans ma région, dans toutes mes connaissances, c'était comme ça, il fallait son trousseau. On avait un point d'honneur à avoir un trousseau.
La jeune fille devait forcément broder son propre drap ou pas?
Si possible, oui, elle brodait ses draps. Moi, j'ai des draps qui ont été brodés par des brodeuses, hein. Mais mademoiselle Perrault, qui était place de l'église à Bourgoin, là, elle était brodeuse, et j'ai des draps qui viennent de chez elle. Les parents, les mamans enseignaient à sa fille comment broder. Mon maman m'a appris à broder les jovenises. C'est un jour qui se fait en prenant des fils, en passant du fil à broder autour des fils, et ça fait comme des petites barrettes, voilà. D'accord. Ça fait des petites barrettes. Et si on mettait deux barrettes l'une à côté de l'autre, c'est ce qu'on appelait double. Le jour Venise double, c'est quand il y avait donc deux barrettes l'une contre l'autre. Le plus difficile, je vous dis bien, c'était quand il fallait faire non pas des lignes droites en jour, mais il fallait faire des dessins en V, comme ça, quoi. C'était pas facile.
Ce trousseau-là était très coloré ou pas? C'était forcément du blanc, hein?
C'était du blanc. Le trousseau était toujours en blanc. Il y a que les torchons éponges, quelquefois, qui étaient un peu en couleur, mais autrement, les torchons de cuisine, ils étaient blancs avec des raies rouges, une raie rouge sur les côtés.
Et dans votre cuisine, vous avez toujours des serviettes?
Ah, bien sûr. Toujours.
Et c'est ceux-là qui suit le plus.
Sauf les torchons qu'on a eu pendant la guerre. Les torchons qu'on a eu pendant la guerre, c'était souvent des torchons qui venaient de chez Diedrich. C'était des essais qu'ils avaient fait et qu'on arrivait à, et bon, ils vendaient les coupons comme ça. On arrivait à avoir des torchons comme ça. Et là, vraiment, le tissu était pas très bon, hein. Les torchons de guerre.
Et d'après vous, ce trousseau-là, il est né à quel moment?
Ma grand-mère était née en 1863. Et je sais qu'elle avait déjà un trousseau.
Si vous aviez eu une fille, qu'est-ce que vous auriez fait?
Mais je crois que j'aurais aussi acheté des draps, que j'aurais aussi fait un petit trousseau à ma fille, si j'avais eu une fille.
Bon, mais moi j'ai acheté pas mal de draps pour ma fille, mais c'était des draps en toile épaisse, et bien elle les a encore, elle s'en est jamais servie, parce qu'il est arrivé la mode des draps légers, qui sont plus faciles à laver, et puis les draps, ils sont restés dans l'armoire.
Alors, vous, André, vous n'avez pas connu le trousseau?
Moi, j'en ai pas eu de trousseau, j'en ai eu un drap uniquement. Brodé à mes initiales, c'est tout.
Et vous, Jacqueline, vous avez tout gardé, hein, de votre grand-mère, de votre maman?
De ma tante aussi, surtout ma tante brodait beaucoup, elle cousait énormément, et j'ai gardé, et je me sers toujours de ces draps brodés, je les ai toujours à mon lit. En ce moment, j'ai encore un drap brodé à mes initiales, quoi. Des draps en fil. Mais un drap qui a 80 ans, au moins, quoi. Ils sont toujours en bon état. Oui, il y en a quelques-uns qu'on a découpés pour en faire des traversins, vous voyez, pour utiliser la broderie pour faire des traversins, parce que le reste du drap était usé, quoi. On n'a gardé que le revers. Bon, mes draps ont toujours été achetés de la place de l'église chez Mademoiselle Perrault, là.
Et chez nous, en Auvergne, il y avait des marchands qui venaient de certaines régions et qui passaient par, à période régulière pour vendre des draps.
Non, mais sur Bourgoin, il n'y avait pas de marché ambulant, mais il y avait aussi un magasin qui était Place Saint-Michel et qui vendait beaucoup de linge aussi.
Ce que dit, raconte Jacqueline, moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc je pense à mon arrière-grand-mère qui est née et qui a vécu à Jailleux, qui était lingère et justement qui brodait aussi des trousseaux pour les gens qui lui commandaient des trousseaux, quoi. Et j'ai le souvenir que cette arrière, moi j'ai donc 62 ans, j'ai le souvenir que cette arrière-grand-mère, ben quand j'ai eu à peu près une dizaine d'années, un de ses premiers cadeaux, ça a été de m'offrir un drap brodé avec mes initiales AM. Voilà.
Alors, pour parler de petites histoires de brodeuses, je vais vous raconter une histoire là, d'une amie dont la maman et la grand-mère étaient brodeuses. Sa maman était née en 1910 et sa grand-mère bien avant. Sa grand-mère était brodeuse, c'était sa profession. Elle vivait dans la vallée de la Zergue avec son grand-père et leurs 5 enfants. Et elle brodait toute la journée. Alors les 5 enfants, le ménage, la lessive dans la rivière, c'était pas la grand-mère, c'était la mère, l'aînée qui s'en occupait. Et elle allait à l'école quand elle le pouvait, hein. Et sa grand-mère brodait tout le temps. Après le certificat d'études, à 12 ans, sa mère s'est mise à broder elle aussi. De la broderie blanche, principalement. La broderie des draps, des nappes blanches en damassé. Parfois, elle brodait très tard le soir et très tôt le matin, sous la lampe à pétrole, parce que le commissionnaire passait pour prendre le travail achevé et l'emporter à la ville de Lyon. Quand mon amie a eu 14 ans, sa mère a constitué son trousseau. Ça veut dire que pour chaque Noël, chaque anniversaire, comme on le disait tout à l'heure, il y avait un drap, des serviettes, une nappe et des serviettes assorties qui étaient achetées. Les plus beaux draps, ils étaient en fil de lin, et les autres étaient en métis, c'était un mélange de lin et de coton. Et elle brodait alors ses draps. En fait, elle brodait plutôt sur le retour du drap, c'est-à-dire la partie du drap qu'on retourne sur la couverture quand on fait le lit. Elle faisait les jours d'abord, c'est-à-dire qu'il fallait tirer les fils de trame sur toute la largeur du drap pour les enlever, sur à peu près 5 à 6 mm, et puis il fallait enrouler avec beaucoup de patience le fil autour des fils de chaîne, faire un point, et puis passer au groupe de fils suivant. Parfois, elle brodait des jours sur le retour du drap, et alors, il y avait deux rangées de jours qui se croisaient perpendiculairement. C'était pour les plus beaux draps, ça. C'était assez particulier et un peu difficile. Après, elle choisissait les dessins dans le journal des brodeuses. Elle se rappelle que sa mère utilisait de la poudre bleue et une espèce de papier calque. Et elle se rappelle vaguement, hein, parce qu'elle sait plus très bien, qu'elle faisait des perforations dans le papier et qu'elle mettait la poudre. Après, quand elle avait reproduit le motif, pour donner du relief, elle bourrait les motifs pour faire des pétales, des feuilles, avec une espèce de coton un peu tordu. Et puis elle les brodait, ces motifs. Elle les brodait avec un point de sable qui faisait des sortes de jolis nœuds, ou avec un point de bourdon. Et le chiffre, le monogramme, elle ne le brodait pas, parce qu'en fait, les initiales, on les ferait plus tard, quand elle se marierait. Parce qu'il fallait broder d'abord l'initiale du nom du futur mari, après l'initiale de son nom de jeune fille. Quand le drap était complètement brodé, elle le lavait pour enlever la poudre bleue et l'après. Et elle le faisait tremper dans de l'eau et du gros sel. Et ensuite, elle le repassait avec beaucoup de soin. Et il fallait repasser les broderies à l'envers pour pas les écraser, pour pas les abîmer. Mon amie a gardé tous ses draps et elle les utilise toujours. Elle a plus de 65 ans actuellement et c'est plein de souvenirs. Sa mère, elle brodait aussi des napperons à la broderie blanche. Elle brodait finement le contour du dessin, puis elle découpait avec des ciseaux très fins à l'intérieur du motif pour l'ajourer. C'est pour ça qu'elle arrivait à faire des festons, de la broderie anglaise. Elle chiffrait aussi les mouchoirs. Tous les mouchoirs de mon amie ont des petites initiales très finement brodées. Et la dernière chose que la grand-mère a faite, c'est de broder sur les deux mouchoirs de ses petits-enfants à l'occasion de leur mariage en 2000. Voilà. Et donc, je veux dire, on peut revenir au mariage et au trousseau. Et je vais vous poser une question, Jacqueline. Est-ce que les hommes s'intéressaient au trousseau? Est-ce que ça leur disait quelque chose? Est-ce que c'était quelque chose qui les intéressait?
Non, même pas. Mon mari s'en moquait éperdument. Il a pas, bon, pourvu qu'il ait des draps dans son lit, c'est tout ce qu'il lui fallait, quoi. Il a pas examiné vraiment le trousseau. Quand je me suis mariée, je suis allée habiter à Saint-André-le-Gaz. Je lui ai amené mon trousseau dans ma malle, oui. C'est-à-dire, j'habitais déjà toute seule, hein. Donc, à Boussieu, j'habitais toute seule. J'avais mon trousseau avec moi. Et je l'ai emmené dans mon lieu de couple, quoi. Dans mon foyer.
Il y a eu certainement des moments heureux dans ces draps. Je veux pas d'explication, mais il y a eu aussi des moments heureux avec ces nappes. Il y a eu sûrement des grands repas familiaux, des communions ou des baptêmes, des mariages.
Oui, on sortait justement ces grandes nappes blanches là, et moi je les ai gardées, quoi. Moi je les sortais pour Noël, je sortais la nappe blanche brodée avec les serviettes de table aussi brodées. Les serviettes ça va bien pour les repasser, mais les nappes c'était difficile. Je la donnais toujours à repasser à l'association Palette. Il y a aussi des serviettes plus ordinaires qui étaient simplement marquées au point de croix pour la semaine, voilà. Mais à la maison, on n'aurait jamais mis un torchon ou un mouchoir sans qu'il soit brodé, sans qu'il soit marqué à votre nom, même au point de croix. Pendant la guerre, ma mère faisait des mouchoirs à mon père avec des bouts de tissu qu'elle récupérait comme ça. Quelquefois, c'était les pantumises qu'elle coupait pour faire des mouchoirs. Mais les mouchoirs, il fallait après les marquer. Elle aurait jamais donné à mon père un mouchoir qui n'était pas marqué avec ses initiales.
Vous avez quoi comme mouchoir dans votre poche?
Je sais pas si j'ai pas encore un mouchoir qui est...
C'est un mouchoir en tissu?
Et brodé. Et brodé, voilà. C'est une poche. Alors là, c'était les pochettes. C'était les pochettes qu'on avait pour la communion. Il y en a qui sont marquées avec mon nom. Et pour les communions, on offrait bien une pochette brodée.
Vous avez fait le choix de tout garder. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vos petits-enfants, par exemple, s'intéressent à ce genre de draps, de trousseaux?
Pas du tout. Et les serviettes de table, par exemple, les nappes blanches brodées, damassées, brodées, là, eh ben, j'en ai 2 douzaines à la maison et je sais pas ce que ça va devenir, quoi. Oui, moi, j'aimerais bien que mes draps resservent aussi, mais bon, ni mon petit-fils, ni ma petite-fille n'ont l'air d'apprécier ces draps-là. Ils aiment mieux les draps plus légers et puis ils ont des couettes, alors les draps ne servent plus beaucoup. Même mon fils, ma belle-fille, non, n'apprécie pas du tout les draps brodés. C'est important de faire voir quand même aux jeunes générations comment ont travaillé leurs arrière-grand-mères ou comment ils ont fait tout ça, quoi.
Non, mais je suis de la vie de Jacqueline. Moi, j'aimerais bien que ça se perpétue, mais moi, ma fille, ma petite fille, mes petits enfants, ils apprécient pas. Par contre, ma fille étant jeune, elle a porté les camisoles de ma belle-mère qui étaient brodées.
André, là, par exemple, a apporté les culottes percées de sa belle-mère. Bon, elles ont été lavées entre-temps, j'espère, hein.
Je suppose, oui.
Fendu, quoi. Moi, j'en ai pas porté, mais ma grand-mère les avait, quoi. Elle les avait tout le temps. Ces culottes qui étaient fendues au milieu, quoi. Il suffisait d'écarter les jambes pour faire pipi, quoi. Si, c'était dans le trousseau aussi, ça. Maman, je l'ai pas eu dans mon trousseau, ça. Hein. Moi, ça n'existait plus, hein, ces histoires-là. Ces culottes qui s'attachaient avec des lacets à la ceinture. Puis ma tante aussi en avait. Déjà dans ma jeunesse, ma mère et ma tante ne les portaient plus, ces culottes. Hein. Elles avaient adopté les culottes ordinaires, quoi, les slips ordinaires. Mais les chemises brodées, nous, on les a portées en chemise de nuit. Donc les chemises brodées de ma tante, on les a usées en chemise de nuit.
Vous avez connu la combinaison?
Ah, bien sûr. Maintenant, on est en pantalon, alors on n'a plus de combinaison.
On avait la chemise de jour aussi, oui. Ça se fait plus non plus.
Alors, et pour les culottes aussi, donc, il n'y avait pas l'élastique, il n'existait pas, du moins, il ne se faisait pas. On avait moi, j'ai connu ça jusqu'à la guerre, on avait des culottes qui se boutonnaient avec des boutons. Alors, on avait un corset, et sur le corset, il y avait des boutons, et les culottes, elles avaient des boutonnières sur les côtés. On mettait sur le devant de la culotte, on mettait les boutons sur les côtés et l'arrière de la culotte se rabattait et il y avait aussi 2 boutonnières pour les remettre aux boutons. Et quand on allait faire pipi, on laissait que les 2 de devant et les 2 de derrière, on les enlevait et c'était quelquefois pas facile à remettre.
Et puis, il ne fallait pas avoir une envie pressante, hein.
Oui. Et les femmes aussi, alors j'avais apporté ça pour vous montrer, c'est pour les bas. Les collants n'existaient pas à l'époque, il y avait des bas, et les bas tenaient avec des jarretières ou des jartelles. Les jarretières, c'était ce qu'on mettait autour de la cuisse. Alors ça, moi, j'ai pas connu, mais j'ai bien connu les bas avec les jarretelles. On avait des corsets, et sur ces corsets, il y avait des élastiques très larges. Au bout de ces élastiques, il y avait ce système-là, et avec des boutons, et on faisait tenir le bas avec un bouton, là, qu'on accrochait.
Vous étiez très sexy, hein, finalement, comme ça revient un peu à la mode.
Les jartelles, je sais pas si ça revient à la mode, mais enfin, les collants, c'est bien plus pratique, disons.
Merci, Jacqueline.
Alors, juste une petite info, là, si vous êtes intéressé par le trousseau, la lingerie, le patrimoine industriel autour de ça, il y a une très jolie exposition qui s'appelle Les Dessous de l'Isère, que vous pouvez aller voir au musée dauphinois jusqu'à la fin juin, je crois.
Avec Jacqueline, nous avons choisi Mon Amant de Saint-Jean. Cette chanson nous rappelle beaucoup de souvenirs. Nous avons dansé et connu nos premiers émois sur Mon Amant de Saint-Jean.
Pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Vous êtes toujours avec nous sur Couleur FM 97.1. Vous venez d'entendre Les Amants de Saint-Jean et peut-être que André, elle voudra nous faire un petit refrain avant d'enchaîner avec nos initiatives locales et l'atelier conte.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Moi qui l'aimais tant, mon bel amant, mon amant de Saint-Jean, je restais grisé sous ses baisers sans volonté.
Bravo. Voilà, donc maintenant, abordons l'atelier conte avec Corinne qui va nous rappeler ses fonctions à la cité de la CAF.
Donc je suis conseillère en économie sociale et familiale et j'ai une mission de coordination de l'animation globale. Et donc dans le cadre de mes missions, j'anime un groupe d'habitants les lundis après-midi, ce qui s'appelle les rencontres du lundi. Et dans ce cadre, nous avons participé à un concours les Dimons en Rhône-Alpes, donc c'est un concours d'écriture dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, donc avec le ministère de la Culture et de la Communication et du ministère des Affaires étrangères. Donc le groupe a bien voulu se prendre au jeu de créer un conte.
Alors avec quel mot, André?
Ambiancé, charivari, ouf et zigzag. Et tohu-bohu.
Mais comment ça a démarré cette histoire de conte, Françoise? Racontez-nous un peu là.
Nous sommes partis de la caravane des 10 mois à la folie. Nous avons choisi quelques mots que nous devions insérer dans un texte. Donc nous sommes partis d'une trame d'un conte. Nous avons donné chacune à notre tour les personnages que nous souhaiterions avoir dans ce conte. Donc chacune à notre tour, nous avons donné l'âge d'un héros, une époque, un lieu. On s'est laissé partir dans notre imaginaire, on s'est retrouvé dans notre enfance, nous avons bien ri, nous avons passé de bons moments et nous avons pu aboutir sur l'établissement d'un récit, ce qui n'a pas été facile parce qu'après nous avons chacune donné nos idées. Il a fallu mettre en forme ce conte. J'espère que cette aventure va aboutir sur une création d'un CD ou d'un livre, ce serait bien. Et j'aimerais bien que les auditeurs nous renvoient un petit peu leurs impressions sur ce conte.
Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé entre vous pour mettre au point ce conte. Est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions trop vives? Est-ce que vous étiez d'accord tout de suite?
Ben disons que c'est intéressant, que c'est tout ce foisonnement d'idées. Il a fallu sélectionner, justement, c'est ce qui a été un petit peu dur parce que tout était très très intéressant et nous avons fait un vote. Oui, et chacune a pu s'y retrouver un petit peu dans l'histoire, voilà. Puis bon, bah, il fallait mettre en place l'histoire par elle-même, ce qui n'a pas été facile du tout. Mais bon, on a réussi grâce à l'aide de Madame Micheline, qui nous a aidé, qui est conteuse et qui nous a aidé à remettre en place le fil de l'histoire, voilà.
Qu'est-ce qui a beaucoup fait débat alors? Racontez-nous peut-être une petite proposition qui a beaucoup agité la communauté des conteurs, des écrivains.
Surtout sur la mise en place du texte et de l'histoire, parce qu'on savait pas trop, on avait beaucoup d'idées, mais on savait pas trop comment on allait mettre en forme ce texte. Mais bon, on avait beaucoup d'imagination et on... Tout était inscrit sur un tableau et classé. On puisait dans les idées qui ont été émises pour réaliser le texte. Il fallait surtout s'imaginer l'histoire dans la tête pour pouvoir réaliser l'histoire, quoi.
Est-ce que vous avez de personnages?
Au début, il y en avait beaucoup. Donc, ça partait dans tous les sens. Et puis on en a sélectionné, enfin Micheline nous en a sélectionné deux ou trois, parce que bon, on savait pas comment était organisé un texte, comment c'était élaboré un conte, tout ça. Il fallait pas, par exemple, trois personnages aidants, beaucoup de méchants. Il fallait savoir la fin de l'histoire, tout ça. Et donc on savait pas où l'histoire allait nous mener finalement. C'était une aventure, quoi. C'est ça qui était intéressant, parce que...
Ce héros, comment il s'appelle, déjà?
L'héroïne s'appelle Oriunda, qui vient de la constellation d'Orion, que j'avais trouvé, puisque c'était peut-être un conte qui se passe dans le futur. Quand on dit futur, on dit tout de suite espace. Et j'aime bien la constellation d'Orion, parce qu'on la voit en hiver, et j'aime surtout voir les étoiles en été, mais ça rappelle l'été, mais... Et donc Oriunda vient de Orion, et bon, après j'avais juste aussi trouvé qu'on pouvait peut-être faire entrer en jeu le soleil, puisqu'on parlait de l'or, je crois qu'on parlait de l'or qui manquait à Orion, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les personnages aidants que vous avez trouvés pour votre conte?
Ben, personnage aidant, j'avais pensé à un chapeau, un objet aidant. L'objet aidant, c'était le chapeau en feutre. Pas pourquoi, parce que je pensais à l'époque médiévale, ce qui n'a rien à voir. Et autrement, le personnage aidant, peut-être un oiseau.
Bon, moi, j'ai beaucoup, oui, c'est une quête. J'ai beaucoup aimé le personnage de l'ogre. Il s'assomme tout seul avec son gourdin, ça m'a fait beaucoup rire.
Qu'est-ce que c'est qu'un personnage aidant? À quoi ça sert?
Mais c'est celui qui facilite le déroulement de l'histoire. Moi, j'ai choisi la pieuvre avec son encre magique qui écrit des messages ou qui sert à se défendre contre les méchants. Oui, il y a des objets aidants aussi, un masque, une épée, une boule de cristal. Donc là, on a choisi la boule de cristal. Donc Oriunda peut voir des choses pour sa planète qui dépérit parce qu'elle a plus la planète n'a plus d'énergie. Bon, il a fallu choisir une fin heureuse parce que bon, la vie c'est toujours bien. Donc il faut arrêter de vieillir, la paix sur terre, la fraternité, la guérison. Donc ça, ce sont toutes les idées qui ont été données. Pour l'histoire d'Oriunda, la fin heureuse c'est l'amour. Et bon, faut pas tout lui dire, c'est facile. L'âge du héros aussi, ça n'a pas été facile à choisir. Donc on est parti d'une petite fille, puis dans l'histoire, les années ont passé, elle est devenue adulte.
Est-ce que certaines d'entre vous avaient déjà écrit ou conté? Ou est-ce que c'était complètement neuf comme expérience?
Ah non, pas du tout. Moi, j'ai jamais écrit quoi que ce soit. J'aime bien les histoires, donc on s'est laissé partir un petit peu dans notre imaginaire. Bon, ça nous a permis de nous évader un petit peu du quotidien. On se prend en jeu tout ensemble.
Si j'ai bien compris, vous avez eu du mal à choisir parce que vous étiez assez foisonnant. Alors, vous avez de quoi continuer, réaliser peut-être un ou d'autres contes.
Oui, puis j'aimerais bien que les auditeurs nous envoient leurs idées aussi. Oui, on pourrait faire une série, ça serait sympathique.
Aujourd'hui, à côté de nous, nous avons Micheline Duplan, qui est une femme à contes. Et elle peut nous raconter un peu son parcours et puis comment elle a été amenée à venir au centre social pour aider le groupe du lundi.
Bonjour. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été amenée au centre social parce que Corinne a appelé l'association dont je fais partie.
Au secours.
Et voilà, je suis donc arrivée dans ce groupe de dames charmantes, drôles, qui avaient beaucoup, 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 beaucoup d'idées. Et donc, il a fallu, c'est vrai, que je les aide un peu à choisir pour que l'histoire ait une logique, un sens, et qu'on aille vers une fin heureuse, puisque c'est ce qu'elle souhaitait, qui est l'amour, mais qui est quand même aussi le sauvetage d'une planète, la planète Orion, qui se mourait. Et ça, c'est quand même quelque chose de fantastique, sauver une planète.
Là, vous évoquez la structure du conte. C'est vrai que les contes répondent à des règles précises.
Oui,
vous pouvez nous en parler un
tout
peu
à fait. Bah, écoutez, tout dépend s'il s'agit de contes merveilleux ou d'autres contes. Là, c'était plutôt un conte merveilleux, donc une aventure. Hein. Au départ, une planète qui se meurt et il faut trouver le héros ou l'héroïne qui va pouvoir arriver à sauver cette planète. Donc, il faut qu'elle ait des ressources, qu'elle corresponde à quelque chose pour le sauvetage de la planète. Il faut évidemment quelqu'un qui lui fasse prendre conscience de cela, qui l'aide. Et puis après, il y a toute la quête avec les embûches et les aides qui peuvent arriver dans cette histoire. Voilà. Et on me fait signe avec deux doigts sur les oreilles qu'il faut que je parle du lapin. Le lapin blanc, qui est un des personnages, oui, peut-être bien, je ne sais pas, hein, mais voilà, il y ressemble en tous les cas. Oh, il est moins compliqué, hein. Voilà, mais ce lapin qui est allé chercher Oriunda pour sauver la planète.
Les contes se nourrissent des contes.
Absolument, les contes se nourrissent des contes et celui-là ne va pas s'en évoquer d'autres. Hein. Donc, Alice au Pays des Merveilles, peut-être bien, et puis, je ne sais pas lequel, mais voilà.
Donc chacun, chacune retrouve des choses qu'il a dans son imaginaire, dans sa tête. Ça évoque des souvenirs.
Absolument, je crois que quand on raconte des histoires, souvent les parents installent devant leurs enfants, parce que c'est pour les enfants les contes, chacun sait ça. Et à la fin de la séance, les enfants ont été très contents, mais les parents ont des petites étoiles dans les yeux, et ils viennent toujours me dire, c'est merveilleux, on a retrouvé notre enfance. Bah oui, parce que je crois que le conte, c'est retrouver en chacun l'enfant qui y est toujours. Et moi, je dis tout le temps que c'est pas la vieille grand-mère qui raconte des histoires, mais la petite Micheline.
Alors maintenant que vous nous avez bien fait envie, on veut un petit extrait.
C'est possible. Oh ben, ça doit pouvoir l'être. Alors, on me disait qu'il fallait que je parle de l'ogre, hein. Donc, on va en parler, de cet ogre qui est aussi au cœur de cette histoire. Alors, voilà. Oriunda, transformée en chouette, et le renard, qui n'est autre que le lapin blanc, se dirigeait vers la grotte. La grotte était sombre, et la chouette et le renard s'aidaient mutuellement, l'une avec sa vue qui permet de traverser les ténèbres, l'autre son flair de se diriger dans ces ténèbres. Et soudain, ils ont entendu un grondement terrible, la montagne tohu-bohu. Les murs de la caverne vibraient, ils se sont approchés, effrayés. Et là, ils ont failli éclater de rire. Parce qu'en fait, ce grondement qui effrayait tant tout le monde, c'était tout simplement l'ogre. L'ogre qui dormait et qui ronflait. Alors, ils l'ont contourné sans faire de bruit. Et ils sont arrivés au fond de la caverne, attirés par une lueur étrange. Et là, ils ont découvert une cheminée. La cheminée d'un ancien volcan qui s'ouvrait sur le ciel dans lequel on pouvait voir briller faiblement Orion. Et là, au milieu de cette cheminée, il y avait la montagne d'or qu'ils cherchaient. Ils étaient là à se dire, mais comment allons-nous faire pour transformer et transporter cette poudre? Quand ils ont entendu un véritable charivari, ils se sont retournés. Les pirates étaient arrivés. Les pirates avaient réveillé l'ogre, et l'ogre se dressait. Il faisait tourner sa massue au-dessus de lui. Les pirates grimpaient le long de ses jambes comme des fourmis. Ils le tailladaient avec leurs sabres. L'ogre hurlait. Le chef des pirates criait des ordres dans tous les sens. Et dans la main du chef des pirates, la fleur doucement se mourait. Alors la chouette s'est envolée, elle a pris la petite fleur dans ses serres, elle l'a ramenée vers la montagne, et on a vu la petite fleur se redresser, reprendre de la couleur, reprendre de l'odeur. Elle a grandi, elle est devenue une femme merveilleuse, mais je vais m'arrêter ici parce que je ne veux pas vous dire toute l'histoire tout de même.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est reparti en enfance. Merci. J'ai pu constater un très beau travail de la voix. Quand on raconte des histoires, la voix, c'est quelque chose d'important. Ça fait passer des messages, ça fait passer des sensations. Et vous avez une voix extraordinaire. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail? Comment vous faites quand vous faites, vous avez l'intention de raconter une histoire? Vous la mettez quelque part dans votre tête et puis vous la racontez avec vos mots, ou bien vous la racontez avec vos mots qui sont écrits dans le conte. Racontez-nous un peu tout ça, puis ce travail sur la voix, ça m'intéresse beaucoup.
Alors, comment dire? Quand je veux raconter une histoire, ben d'abord je la maîtrise, hein, je connais la trame. Après, je parle parce que je suis bavarde, donc je parle avec mes mots. Je n'apprends rien par cœur, hein, bien sûr. Je laisse venir la spontanéité. Et puis, il y a les gens qui sont là, hein, qui portent quand on raconte une histoire. On les regarde, il y a des sourires, il y a des choses qui font que on en rajoute ou on en enlève, d'ailleurs. Bon, après, c'est comme un film dans la tête qui se déroule et il faut voir les images, je crois, pour pouvoir les donner aux gens et que les gens vous disent après qu'ils ont vu plein de choses. Parce que je crois que si moi je ne vois rien, ils ne verront rien non plus. Après, le travail de ma voix, ben écoutez, non, j'ai celle-là. Hein. Merci papa, merci maman, c'est la chose que je dis. J'ai toujours eu une bonne diction à l'école, on me faisait lire régulièrement. J'avais un prix de diction quand il y avait encore des prix pour dire les poésies, j'aimais ça. Je place bien ma voix, on me le dit, les musiciens me le disent, mais alors j'ai rien fait pour, hein. c'est comme ça, oui, on me dit que je place bien mes silences, bah écoutez, tant mieux. Voilà, mais je crois que c'est, bon, bah, ça doit pouvoir se travailler, hein. Alors c'est vrai que je suis dans un groupe de conteurs où on a la chance de pouvoir, grâce à nos racontages, d'avoir un peu d'argent, de s'offrir des stages avec. On a fait de la lecture à haute voix, on travaille avec des conteurs professionnels et ça nous aide bien sûr à avancer, à aller plus loin. Voilà, dans ce travail de racontage. Mais je crois, moi j'ai une maxime, enfin je sais pas si on se dit ça comme ça, quand j'allais faire du judo, il était écrit dans la salle, l'amour d'une chose, voilà l'art d'y devenir experte. Eh ben je crois que voilà, c'est ça l'essentiel. Il faut aimer faire les choses pour les faire bien, et tant mieux si je les fais bien, parce que j'aime bien ça.
Vous êtes toujours avec nous sur Couleur FM 97.1. Nous allons écouter un petit morceau de musique choisi par Corinne.
Oui, donc j'ai choisi le groupe Sweet Play avec le titre Flight. J'ai choisi ce morceau parce que, en fait, c'est une copine à moi qui a un groupe de musique qui est sur le Ouaronnais. Donc je voulais rendre hommage à Aurore Villien qui m'épate de chanter en anglais. Voilà.
toujours avec nous sur Couleur FM. Mais maintenant, nous sommes partis à Montferrat, petit village près d'un très joli lac, lac de Paladru, à côté des Abrets. Nous sommes reçus dans une entreprise très lumineuse, en pleine campagne, c'est très joli. Et cette entreprise, c'est l'entreprise Meunier-Carus, et qui a donc 25 ans d'existence.
Donc, je suis Christophe Simon et je suis le co-gérant de l'entreprise Meunier-Carus, que j'ai repris il y a un peu plus de 6 ans.
Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette entreprise ?
Depuis 25 ans, nous concevons et fabriquons des fauteuils pour le domaine médical et plus particulièrement pour l'orthodontie. Et nous fabriquons également des sièges pour les praticiens, ainsi que des banquettes de salles d'attente sur mesure. Et nous partons en fait de notre savoir-faire que nous avons depuis 1954, puisque l'activité existe depuis 1954, qui est la tapisserie, décoration et la sellerie. Je vais laisser à Michel Meunier-Carus le soin d'en parler un peu plus en détail.
Le départ, c'est mon père qui était bourrelier et sellier et qui nous a transmis après la passion de l'ameublement. Et donc, pendant une longue période, on a fait la tapisserie décoration. Voilà, pour en venir aujourd'hui à faire des fauteuils dentaires et d'orthodontie.
Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette voie-là ? Votre premier fauteuil d'orthodontie, c'est pourquoi ?
Notre premier fauteuil, c'est un dentiste qui voulait faire refaire son fauteuil. Et donc, on a refait son fauteuil et un technicien est venu chez lui voir ce fauteuil qui était refait. Et nous a contactés après pour essayer de faire un modèle qui s'adapte à l'orthodontie, parce que c'était le début de l'orthodontie. Voilà, donc c'était dans les années 1988. Les premiers fauteuils, ils étaient monocoques, c'est-à-dire qu'ils avaient une seule coque. C'était pour l'orthodontie, ça était vraiment fait pour les petits enfants. Et donc après, ben, on a évolué en faisant des fauteuils qui marchaient, on va dire qu'il y avait un dossier qui se relevait, et puis avec des mécaniques différentes.
Vous êtes combien ?
On est 3. Il y a donc Gaël qui est apprenti depuis maintenant bientôt 2 ans, qui termine sa deuxième année en sellerie et qui a déjà une formation en tapisserie. Il y a Michel qui a tout son savoir-faire depuis plusieurs dizaines d'années et puis moi qui assure la partie administrative et commerciale. Et puis après, pour tout ce qui est conception, on travaille ensemble, on essaye chacun de donner nos idées, d'échanger, d'avoir un design qui soit plaisant. Voilà.
Vous nous avez dit que vous étiez depuis 6 ans dans l'entreprise.
Oui,
racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés.
Alors c'est un peu le hasard, c'est-à-dire que moi je suis issu d'une formation en commerce international et j'accompagnais les entreprises dans leur développement à l'international auprès de la Chambre de commerce Nord-Isère. Et puis, dans le cadre des activités, des actions que l'on mène au niveau de la Chambre de commerce, il y a les soirées trophées, et la société Meunier-Carus avait été primée lors d'une des soirées dans la catégorie innovation, et j'avais donc vu les fauteuils. Et j'avais eu un petit coup de cœur, et puis ça c'était 1 ou 2 ans avant qu'on prenne contact. Je voulais me reconvertir et reprendre une entreprise ou créer une entreprise. Et au même moment où j'ai pris la décision de reprendre les bancs de l'école, j'ai vu un article de presse sur la société où il était indiqué que les patrons cherchaient un repreneur. Et voilà, ça fait tilt. Et j'ai pris mon téléphone et puis on s'est rencontrés. On s'est tout de suite... entendu, on avait la même façon de voir les choses, de penser, on partageait voilà la même philosophie et puis voilà comment ça s'est créé la relation.
Et puis là, je vois que vous personnalisez beaucoup parce que là, on est devant un socle de fauteuil orthodontiste qui est décoré avec une photo de Marilyn Monroe,
oui.
Par exemple.
Oui, bien sûr, oui.
Donc voilà. Vous adaptez aux désirs
voilà.
Des clients.
On personnalise le produit chez le client et on a fait beaucoup, beaucoup de choses différentes.
Et vous personnalisez au niveau déco uniquement ou est-ce qu'il y a des adaptations techniques qui sont réclamées par certains orthodontistes
Oui, bien sûr, parce qu'on fait du sur-mesure. Alors on peut faire des fauteuils qui s'adaptent dans un cabinet. Si la personne n'a pas trop de place, on peut le faire plus court. Voilà, on fait des choses toujours spéciales, on s'adapte au client.
La passion, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. On travaille beaucoup avec des couleurs, surtout dans le domaine de l'orthodontie, parce que c'est pour les enfants. Donc c'est vrai qu'on fait des beaux fauteuils quand même.
Est-ce que vous avez des souvenirs de commandes qui ont été particulièrement difficiles à réaliser ? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée ? Ou vous avez eu un casse-tête technique ?
On en a toujours, on va dire. On se remet en cause, donc c'est vrai que c'est toujours... mais bon, on y arrive. Hein.
Et là, vous avez des projets au niveau technique pour faire évoluer hein, le fauteuil ben, auquel vous êtes arrivé
maintenant ? On essaye, c'est vrai que chaque année, on essaye de faire évoluer les produits.
D'accord.
Il y a toujours quelque chose, on se remet en cause et on dit ben, ça serait peut-être mieux de faire comme ça. Et on s'adapte à l'évolution aussi.
Vous pensez qu'il y a des marges de développement pour votre entreprise ? Vous pensez embaucher
Alors oui, si moi j'ai repris, c'est pour pouvoir vivre de l'activité et puis la faire prospérer dans le but de recruter du monde. D'ailleurs, on recherche actuellement une personne en sellerie ou tapisserie qui a entre 5 et 10 ans d'expérience et moi j'aimerais bien recruter à terme aussi une équipe commerciale, éventuellement avoir quelqu'un aussi au secrétariat. Mais bon, tout cela demande des moyens. Il faut d'abord développer l'activité avant de pouvoir recruter des personnes. Mais les projets, l'envie sont là, mais voilà, c'est les moyens qui manquent pour une petite entreprise comme la nôtre.
Vous seriez intéressé par un apport extérieur au niveau financier ou vous êtes posé la question ?
On se l'est posé. C'est vrai que pour répondre justement à ce projet d'innovation qui est ambitieux pour notre structure, on a besoin de partenaires financiers. Et le projet n'est pas seulement la conception d'un nouveau fauteuil, mais c'est aussi comment le vendre et c'est miser aussi le développement de l'entreprise sur ce nouveau concept-là qui va passer forcément par avoir une équipe commerciale en interne.
Et votre grande force, c'est la particularité, l'adaptation aux besoins de chacun en fait, hein, la personnalisation du produit.
Oui, la personnalisation et puis proposer un produit ultra ergonomique pour le praticien. Je garde cette image en tête d'être finalement un concepteur de bien-être pour le praticien. On se démarquera justement aussi des concurrents par ce concept-là. Donc c'est aussi ça l'innovation. Et je rajouterai une chose par rapport à la fabrication de notre gamme, c'est que nous, on conçoit de A à Z, on fabrique les garnitures et tout le reste en fait est sous-traité à des partenaires qui sont locaux. Donc on travaille pour tout ce qui est travail des métaux avec une entreprise qui est à moins de 1 km, tout ce qui est thermoformage ou fabrication des coques, c'est des entreprises qui sont, il y en a une qui est dans l'Ain, l'autre qui est au nord de Grenoble, la peinture c'est Grenoble. Les composants mécaniques sont également achetés localement. Donc c'est vraiment un produit franco-français, voire même dauphinois. Voilà.
Ce qui est finalement assez rare actuellement.
Oui, oui.
C'est à saluer.
Oui, on fait partie des deux seuls fabricants de fauteuils dentaires en France.
Alors, vous avez avec vous une apprentie qui fait partie des compagnons du devoir. Alors, on va peut-être vous demander comment vous l'avez recrutée déjà. Est-ce que c'est nouveau, je veux dire, l'appel aux compagnons du devoir ?
Gaëlle, en fait, nous a sollicité pour un stage quand elle était au lycée Aubry à Bourgoin, qu'elle préparait son diplôme de CAP de tapisserie d'ameublement. Et donc suite à ça, nous on avait noté son enthousiasme et puis sa volonté de vouloir avancer. Et elle a voulu après continuer sur une formation en sellerie. On l'a encouragée puis ça nous intéressait de pouvoir former quelqu'un en interne. Mais elle va vous en dire, je pense, un peu plus sur son parcours.
Comme Christophe a un peu résumé, oui. J'ai commencé à faire un CAP en tapisserie à Aubry. Suite à ça, j'ai voulu approfondir mes connaissances. Donc les stages que j'avais fait dans cette entreprise m'avaient bien plu parce que je voyais la tapisserie et la sellerie. Du coup, j'ai voulu approfondir en sellerie. Et du coup, c'est Christophe et Michel qui m'ont dirigé vers les Compagnons parce qu'ils avaient eu déjà un apprenti avant chez les Compagnons.
Donc vous avez votre diplôme là déjà ou pas?
Non, j'ai le diplôme de tapisserie en décor. D'accord. Et en siège. Et là je fais celui de sellerie.
D'accord.
Là, je passe l'examen à la fin de l'année. Ça me plaît énormément, c'est divers, c'est jamais la même chose. On utilise aussi des matériaux divers.
Et vous avez été bien encadré.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on sent la passion de votre côté et passion du côté de vos employeurs aussi.
Une bonne formation, je suis bien contente.
Ouais. Et après, vous envisagez quoi alors?
J'envisage de rester.
Ah, super.
Si ça se fait. Parce qu'après, avec les Compagnons, on a la possibilité de faire le Tour de France. Mmh. Donc, c'est quand même 7 ans. Donc, Et puis, il faut avoir envie de déménager. Tous les ans. Voilà.
Gaëlle nous a dit qu'elle arrêtait à la fin de l'année. Vous allez reprendre un apprenti, je suppose.
On ne sait pas. Si tout se passe bien, il n'y a aucune raison pour que Gaëlle ne rejoigne pas notre équipe. Parce que de toute façon, on a besoin d'une personne supplémentaire, plus une autre, puisque je disais qu'on est en recrutement. La difficulté, en fait, c'est de former plusieurs personnes à la fois. Gaëlle, en fait, a déjà gagné un peu en autonomie, mais je pense qu'il faudra continuer après un suivi avec Michel pour la rendre de plus en plus autonome.
Et quelqu'un disait tout à l'heure que vous aviez un site qui était extrêmement bien fait et qui donnait envie d'acheter et de vous rencontrer et de vous connaître. Parlez-nous un petit peu de la conception du site. Qu'est-ce qu'il a fait?
C'est peut-être Christophe, ça, qui va vous répondre pour le site qui est... C'est vrai qu'il faut que ça fasse envie de regarder le site. Et je pense qu'on a un peu tous les produits qu'on peut faire sur le site.
Quel est le nom de ce site?
C'est www.meunier-carus.com.
D'accord.
Et il a été réalisé par une personne, je ne sais pas si je peux citer son agence, mais c'est 4DC et elle s'appelle Catherine. C'est vrai que... ce qui est bien quand on travaille ensemble, c'est que elle a tout de suite compris ce que l'on veut faire ressortir sur un site, sur nos plaquettes commerciales. Je pense qu'il est réussi aussi parce que voilà, elle a bien compris ce que l'on cherchait. Effectivement, on a de bons retours. Le site internet est bien visité aussi. On a en moyenne 300 nouvelles visites par mois. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est bien.
André, vous êtes installé sur un siège fabrication Meunier-Carus et j'aimerais savoir comment vous vous trouvez sur ce siège. Est-ce que vous êtes bien?
Mais c'est formidable parce qu'on se sent les reins soutenus. J'ai l'impression d'être relaxée après là-dedans. Oui, confortable, on peut se remuer comme on veut, je crois que ce serait bien pour se servir dans l'ordinateur, ça.
Donc j'ai essayé le confort de ce siège de praticien et je trouve qu'il est vraiment fait pour travailler parce qu'on a une liberté de mouvement au niveau, en ayant les reins très bien soutenus, on a une liberté de mouvement au niveau des bras qui est un peu remarquable. Et je pense que la personne qui est assise sur un siège comme ça peut travailler en toute liberté.
Alors moi, je suis assise sur un tabouret. Je trouve qu'ils sont très confortables aussi. Il y a un côté très ludique parce qu'on peut se promener, on peut tourner. Voilà.
Ça, c'est notre best-seller au niveau pour les praticiens. C'est la selle poney. Et effectivement, c'est un siège ergonomique qui a la particularité... d'obliger le praticien à travailler en posture un peu plus haute et d'avoir toujours, grâce à cette morphologie, une posture droite et dynamique au niveau du bas du dos.
Il y a du vernis, il y a du rouge, il y a du jaune. C'est très gai, tout ça.
Alors, tout ça, en fait, c'est des revêtements qui sont de la société Serge Ferré à Tour du Pin. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des produits locaux. Et donc en fait ils ont une gamme de coloris qui est très vaste, et c'est ce qui plaît beaucoup aux clients. On travaille aussi avec d'autres revêtements, notamment on peut choisir des choses encore plus originales, des imitations de peau d'autruche. Là on a de la peau de crocodile rouge. Voilà, le client peut vraiment nous demander ce qu'il veut.
Et là, on a une espèce de pouf là, qui fait un peu bubblegum, là, qui est rose, très rose et blanc.
Le pouf, en fait, on l'a conçu il y a quelques années. Et c'est le frère de Michel, Jackie, qui est maintenant à la retraite, qui l'avait dessiné, il avait fait un croquis. Et puis, je lui dis, ben, allez, on part, ça serait bien de réaliser un proto. Et en fait, ça ressemble à une molaire.
Ah oui,
donc
c'est
nous,
vrai.
On l'a appelé modulaire parce que ça permet de moduler ses assises et de les assembler entre elles. Et du coup, on obtient une banquette. Et on fait une banquette sur mesure de cette manière-là. Donc effectivement, on a pris un revêtement rose pour rappeler la couleur de la gencive. Et puis le blanc pour rappeler l'émail de la dent. Sachant que les clients peuvent très bien choisir d'autres couleurs pour éviter d'aller jusqu'au bout de l'idée. Parce que le pouf reste somme toute assez confortable. C'est tout travaillé avec de la mousse sur une structure bois. Donc voilà, il y a un confort de siège tout à fait classique.
Toute l'équipe de Couleur FM présente tous ses voeux de réussite à Gaël, qui présente un concours dans le cadre de la MAF, meilleur apprenti de France. Voilà, meilleurs voeux à Gaël.
Bonne chance.
Avant notre chronique info, donc je vous rappelle que nous avons une chronique voix. Et aujourd'hui, donc, nous allons écouter une voix célèbre qui nous parle beaucoup à nous femmes. C'est la voix de Simone Veil. Et en même temps, nous rappelons que fin février et début mars, donc, sont consacrées une semaine pour les femmes.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception ? Sans que la société paraisse l'encourager. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer, et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Nous venons d'entendre Simone Veil, et donc maintenant, voilà notre chronique agenda.
Donc, un petit coup de pouce à l'association Lézard aux Épars, qui propose le 22 mars à 20h à la Maison pour tous d'aller voir les groupes de percussion et les groupes de Zumba. Hein, c'est un accès libre et bon, l'association se démène beaucoup, donc allez voir. Et puis, quelque chose d'un peu exceptionnel, le dimanche 23 mars, à l'église Notre-Dame à Jallieu à 16h, l'orchestre des flûtes du Rhône, avec une cinquantaine de flûtes. Et ce concert, c'est aussi pour la bonne cause, puisque ça servira à financer l'école primaire Marie-Louise Rostania au nord du Bénin, avec l'association Da Mutomu. Encore une petite info là sur le Pucier des Couturières à Saint-Agnin-sur-Bion le 30 mars.
Autre petite info, à la Cité de la CAF, nous accueillons dans nos murs, au premier étage, une exposition de Claude Furminieux, Les femmes résistantes d'hier et d'aujourd'hui, donc des portraits peints de femmes qui se sont battues pour la justice, les droits de l'homme. Donc à venir visiter, c'est gratuit dans nos locaux du 3 au 26 mars, avec un vernissage le mardi 4 mars à 17h30. J'avais une autre information au niveau de l'Artisan du Monde aussi, qui vous propose deux soirées. Le mardi 18 mars à 19h, c'est une soirée échange donc sur l'agriculture paysanne et commerce équitable en Palestine avec des partenaires palestiniens. À Salle Prébéni, c'est gratuit. Et le vendredi 28 mars à 19h30, c'est un ciné hors-piste au Méga Royal, la projection de Caméra brisée suivie d'un débat. C'est le prix d'une place de cinéma. Et un petit clin d'œil au centre social Maison des Habitants donc de Champaret-Champfleury de Bourgoin-Jallieu, qui mettent en valeur en fait les travaux réalisés par les participants aux activités peinture et mode passion. Donc du 1er mars au 10 avril à l'espace Carnot à l'office du tourisme de Bourgoin-Jallieu, vous pouvez voir donc toutes les créations ont été faites par les habitants et le vernissage de l'exposition aura lieu le lundi 31 mars à 17h et ouvert à tous pour venir découvrir les talents de leurs artistes amateurs.
Dernière info, le 7 mars, le vendredi 7 mars à 20h au Conseil Général, à la Maison du Conseil Général, il y a Chansons de Femmes, un concert organisé par l'INIS, l'Association des Italiens du Nord-Isère.
Ce spectacle est fini pour ce soir, passons à d'autres attractions.
Bon ben, au revoir, hein, je veux dire, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter l'émission que nous à la faire, et on vous attend
tous les lundis matin à 9h à la Cité de la CAF pour venir nous aider à la préparer.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.